Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Sainte Matrone. C'est une sainte qui a été canonisée il n'y a pas très longtemps à Moscou, il n'y a peut-être même pas une dizaine d'années. Elle était aveugle. C'est une sainte, une bienheureuse. Regardez les carnations. En iconographie, la lumière jaillit des ténèbres. On commence toujours par la terre épaisse. Et la lumière doit traverser la chair épaisse. Les lumières, je les fais très diluées et de plus en plus concentrées pour atteindre le point lumineux le plus intense. Et dans vos yeux, je fais une touche de couleur, un glacis léger, que je réduis en dimension pour arriver juste au point le plus lumineux, qui est le maximum de touche. C'est pareil pour ça. Vous voyez, les carnations, elles partent toujours de foncé. Bon, venez, regardez le Christ, le corps. Il démarre par la carnation est sombre. Après, la lumière traverse. Allez, venez voir. Allez.
Des pinceaux, des piments, quelques feuilles d'or et pour quelques heures, le temps devient éternité. Nous sommes à Biarritz, dans l'église russe, avec Katia Tchernaeva, une artiste iconographe, ou plutôt, dans cet art, véritable chemin spirituel est au service du divin, avec une interprète. C'est ainsi que préfère se définir Katia Tchernaeva. C'est ce travail, cet art de l'iconographie, qui lui a permis, il y a déjà quelques années, de découvrir et de renouer avec tout un pan de sa famille restée en Russie au début du XXe siècle, au moment de la Révolution d'Octobre.
Ma mère est arrivée ici à l'âge de 4 ans avec la famille de Poliakov, dont on parle beaucoup dans les annales de Biarritz. Mon grand-père était chef cuisinier. Et maman avait 4 ans quand elle est arrivée avec eux. Pour faire la saison. Et puis quand les prémices de la révolution, ça allait mal en Russie, déjà, ça se faisait entendre, ils n'ont jamais pu repartir. Ma mère a grandi ici, mes grands-parents ont eu 9 enfants. Ma mère a grandi ici. Mon père est arrivé ici au milieu des années 20, après la pré-révolution, la révolution et la post-révolution. Il avait entendu, arrivant par un paquebot affrété spécialement pour ces Russes blancs au nord de la France, que les différentes diasporas en France, il avait appris qu'à Biarritz, par la Croix-Rouge internationale, il y avait un petit groupe. Alors il est venu à Biarritz. Il a connu ma mère.
Et ils ont fait souche ici à Biarritz.
Et oui, et alors ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour être intégrés, ils l'ont été. Et mon père est devenu, il n'y a pas qu'à Paris, chauffeur de taxi. Et pendant très longtemps, on m'a parlé de lui après son décès, pour sa classe, pour sa qualité. Vous savez ce qu'ils étaient à Paris, les joueurs de taxi, la plupart.
C'était des grands princes. Hein.
Bon, mon père n'était pas prince, mais une très belle famille.
Prince de cœur, on va dire.
Oui. Et puis, c'était la noblesse de robe. Parce que, au cours de mes recherches iconographiques, j'ai trouvé que cette génération d'ecclésiastiques dans la branche de mon père. Alors j'ai commencé à comprendre pourquoi peut-être le talent pour l'iconographie m'a été donné, voilà.
Alors justement, ce travail iconographique, comment ça s'est cristallisé tout ça? Bon,
je suis née, j'ai été baptisée ici, j'ai passé mon enfance, c'est mon église. Je regardais, je voyais les icônes, je regardais. J'étais assez intriguée par ce genre de présentation, de dessin. Et à la perestroïka, c'est-à-dire en 89, je me suis dit, mais je vais peut-être pouvoir rechercher ma famille paternelle, parce que je ne connaissais que mon père. Il ne voulait pas nous parler du passé. Il pleurait, parce qu'il croyait que sa famille était toute morte. Et quand j'ai recherché, nous avons d'anciennes adresses chez moi, j'ai écrit en Ukraine d'abord, parce que mon père est né en Ukraine, à Kharkov, qui était sous l'empire russe à ce moment-là. Donc il est russe sur ses papiers. Et je me suis dit, je vais chercher. Et au hasard, j'ai envoyé une lettre, mais je me disais, j'étais sûre que j'allais trouver quelqu'un. Parce que quand même, si beaucoup ont été tués, il avait des militaires dans sa famille, il y avait des ecclésiastiques, c'était des Russes blancs. Je dis, il y a bien eu des enfants, et ces enfants, il y en a qui ont été rescapés, qui ont survécu quand même. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je me disais, le jour où nous allons nous rencontrer, parce qu'on va se rencontrer un jour. Qu'est-ce que je pourrais offrir comme cadeau? Parce qu'on risque de se voir une fois, mais est-ce qu'on se verra deux fois? Avec tous les détours de l'histoire, on ne sait jamais.
Et puis ce n'était que le début de l'ouverture.
C'était le début. Alors, je dis, qu'est-ce que je pourrais leur offrir? Parce que je dis, eux ne viendront pas les premiers. On voyait ce qui se passait, la pauvreté de la plupart des Russes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je ferai une icône que j'écrirai.
Parce qu'une icône, ça avait du sens pour vous et certainement pour eux. Alors, là-bas. C'était un pont entre vous deux.
Mon père était donc fils de prêtre. Mon grand-père était prêtre. Il a été élevé, il était très pieux. Il ne pouvait pas tellement venir à l'église parce qu'il était chauffeur de taxi. Mais c'était un homme qui était très pieux, recueilli. Il fallait se tenir bien, être rigoureux. Je me disais, c'est venu comme ça. Ainsi, ils verront que moi, j'ai pérennisé, j'ai perpétué la tradition qu'eux retrouvent maintenant. C'est un geste qui sera, une présence qui sera retrouvée. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé mon premier message. Après, j'ai rencontré des amis qui m'ont donné quelques tuyaux pour pouvoir cibler plus, avec plus de précision ce que je voulais. Et puis, se trouve qu'à une adresse que je croyais perdue, un voisin de ma tante m'a écrit. Un voisin. Alors qu'en Russie, ils ne se connaissaient pas, il ne fallait pas se connaître. Il m'a dit, votre tante est décédée, mais votre cousin habite en Russie, à Penza. Tenez, j'ai ses coordonnées, parce qu'il vient en été. J'ai donc joué à mon cousin, je lui ai téléphoné, avec mon petit russe. Il m'a dit, comment? Tu existes? On peut parler en russe.
Vous avez toujours parlé russe à la maison?
Non, français. Mais j'allais ici, je suivais quelques cours de russe auprès de monsieur et madame Presielkov. Et ce couple-là vivait d'abord sous l'église, après ont vécu pas loin de chez moi. Ils étaient à la retraite, donnaient quelques petites leçons de russe. Et j'y allais le samedi, je disais, un jour ça me servira. Mais j'avais 20, 22 ans à ce moment-là. Donc je me suis souvenue de ce que j'avais appris. J'ai appelé mon cousin, il était étonné. Et je lui ai dit, et qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit, bien, je fais des icônes. Tu écris des icônes? Mais c'est perdu depuis 3 générations chez nous. Et puis, moi j'ai préparé une icône. Et puis mon mari, ma fille et moi, nous sommes allés à Moscou. Nous les avons retrouvées. Et j'ai offert ma première icône. Ah, elle n'était pas terrible. Mais il y avait tout mon cœur. Et c'était Saint-Pierre avec la clé de Saint-Pierre.
Ça avait beaucoup de sens, hein?
Oui. Mais je ne sais pas si au moment où je l'ai écrite, j'ai réalisé la profondeur de ce geste. Mais je me suis dit quand même, ça va être le lien, ça va être le pont qui va nous rapprocher. Et ça a été ça. Voilà, et alors j'ai fait la première icône, et puis j'en ai fait deux, et puis j'en ai fait trois. Il faut dire que je me suis lancée dans les recherches livresques, beaucoup de littérature à travers des bouquins que j'ai pu m'acheter, obtenir en Russie, en Allemagne. Tout ce que je voyais qui concernait l'iconographie m'intéressait, alors je piochais ce qui m'intéressait. Mais je savais que je voulais le faire.
Vous avez travaillé en autodidacte?
Oui, oui. Et au bout de... Après un an ou deux, j'en avais 5 ou 6. Un iconographe est venu sur invitation à Saint-Jean-de-Luz. Iconographe, fils d'une génération de fresquistes et iconographes. Et alors, des amies françaises m'ont dit, tiens, toi qui fais des icônes, ça t'intéresse pas de voir Misha Grechny? Ah ben oui, oui. Alors je suis allée, je me suis inscrite à ce cours-là. Et puis les autres, on n'en avait jamais fait. Moi, je me suis installée, j'ai posé l'or comme si je l'avais toujours posé. Puis au bout d'une ou deux fois, je lui montrais quelques icônes et il me dit, qui a fait ça? C'est une Russe que je connais sur Biarritz. Ah bon? Il regarde. Puis à la fin du stage, il me dit, mais qui avait fait les icônes? Je dis, c'était moi. Vous pouvez continuer. Alors je vous dirais que maintenant, lorsqu'on me propose de faire une exposition d'icônes, c'est toujours à vocation culturelle et c'est pas commerçant, hein. J'accepte, parce que c'est oui, ça me fait plaisir. Mais je nomme toujours Misha Greshny. Alors, quand j'ai exposé à Sainte-Eugénie, je lui en ai parlé. J'en ai parlé aux personnes qui sont venues. Plusieurs m'ont dit qu'elles le connaissaient. D'autres m'ont dit qu'elles iraient le voir. Et puis je continue à écrire des icônes et je continue. Mais disons, je ne fais pas ça à la chaîne. C'est une passion, c'est pas un métier. J'ai eu un métier, je suis retraitée maintenant. Je n'en vis pas. Par contre, j'essaie d'obtenir de la belle matière pour faire des belles images.
Et d'ailleurs, vous me dites que ces icônes que vous écrivez, parce qu'on dit bien écrire une icône et pas peindre une icône, on en parlera. Et donc l'icône fait partie de la liturgie, est un élément de la liturgie.
Tout à fait, tout comme le chant, elle est indispensable. En fait, l'icône, pour nous, c'est le catéchisme monumental. Tous les saints sont représentés. Alors il faut noter que du fait des rigueurs canoniques, les visages de saints ont tout été définis dans les canons iconographiques. C'est-à-dire qu'à travers le monde, dans chaque église orthodoxe, on sait reconnaître Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on doit le représenter toujours de la même façon. Donc c'est un catéchisme, une instruction
universelle.
Voilà.
Mais alors aujourd'hui, comment rendre justement actuel et vivant et présent cet art vraiment très codifié du passé?
Mais moi je pense qu'il faut toujours se référer aux icônes des anciens. Parce que pas mal d'ateliers essaient d'apporter leurs modifications, mais le résultat, ce sont les icônes déviantes. Alors, il faut s'en référer aux anciens. Et moi, j'essaie, dans la mesure du possible, de faire ça. Trouver les belles matières, les beaux matériaux, les travailler, les obtenir moi-même. C'est pas facile, toujours, de broyer des pierres semi-précieuses, mais je le fais, je les lave, je les affine, je les utilise, je les recherche. Du beau bois, du bois qui a vécu de préférence. Je ne cherche pas le tilleul qui est facile parce qu'il est manipulable, c'est léger. Moi, quand on me propose une belle planche en chêne qui a vécu, je la prends. Et j'ai des icônes qui sont à la planche en chêne. Bon, je fais la tempéra à l'œuf moi-même. L'olifa, le vernis de finition, c'est de l'huile de lin cuite au soleil pendant 3 mois. Elle devient cicative parce qu'elle polymérise. Je fais tout ça. Je n'achète pas les planches déjà toutes prêtes. Je les prépare moi-même. Je les entoile. Mais j'essaie de suivre scrupuleusement toutes les étapes. C'est pas facile, il faut faire des sacrifices. Regardez la bougie pour nous éclairer. Elle se sacrifie, elle brûle. La mienne, une à moi, que j'ai offerte au moment de la crypte. Lorsque j'ai fait l'exposition à la crypte, à l'issue de l'exposition, j'ai offert une icône à l'église Saint-Martin à Biarritz. Et ici, donc, j'en ai offert une.
C'est celle-là.
Sainte-Élie. C'est moi, Sainte-Élie. Vous voyez que la carnation au départ.
Et puis, vous me disiez tout à l'heure, l'icône nous regarde.
Mais oui.
Et là, c'est comment ça. J'ai ce regard, le regard de Sainte-Élie qui me traverse.
Mais oui, mais c'est ça.
Me traverse.
Alors, quand vous me dites que vous ressentez ça, je dis mon icône passe un message. Pour moi, elle est aboutie. Voilà, c'est celle que j'ai offerte ici.
Et à travers ce regard, donc c'est la présence de Dieu qui nous traverse.
Voilà, le chrétien prie, vénère son icône, prie devant son icône et l'icône intercède. Voilà, c'est pour ça que les icônes sont très importantes. Dans toutes les maisons de croyants orthodoxes, il y a une icône. Cette icône est placée de façon, dans un angle, dans le bel angle de la maison, de façon à ce que le regard s'élève pour la regarder. Mais jamais baisser. Ça, c'est le rituel. Il y en a d'autres comme ça, je vais vous montrer un peu ce qui est. Venez voir, où on est.
Ce qui peut être symptomatique.
Alors,
ici dans
ça,
cette église. Oui.
Ce n'est pas une icône en face, c'est italianisé, c'est le XVIIIe siècle, quand Saint-Pétersbourg commençait à faire des fioritures et rendre des visages humains, parce que l'icône ne cherche pas à humaniser, mais uniquement les traits hiératiques des personnages. Alors que l'icône, c'est une peinture. La tempéra à l'œuf sur une planche. C'est tout simple. Il faut bien préparer la planche, bien préparer les couleurs. Mais ça.
Tout à l'heure, on m'avait parlé en planche, le bois de bois d'Arménie. C'est un bois qui vient
d'Arménie. Le bol d'Arménie.
Le bol
d'Arménie.
Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
C'est une argile rouge, plutôt rouge, que l'on pose sur la surface à dorer. Il est légèrement apeuse, collante. On l'enduit bien, après on l'humidifie et on pose la feuille d'or dessus. Alors, il y a plusieurs icônes. Moi, ce que j'aime bien ici.
ce qui veut dire que vous vous inscrivez vraiment dans une chaîne de, d'artistes et d'interprètes. Ah, alors dites-moi bien la différence, c'est important.
L'iconographe n'est pas un artiste, c'est un interprète. L'artiste, il va prendre un sujet religieux, du Nouveau Testament ou de l'Ancien, il va le faire comme il le sent, comme il le veut. C'est un créateur, c'est un artiste. Mmh. L'iconographe doit respecter les canons iconographiques. Tout est codifié. Il est guidé par une prière qu'il lit. Il demande à Dieu de guider sa main. L'inspiration vient de là-haut. Donc, il n'est qu'un interprète. C'est une école d'humilité. On ne doit pas être fier de ce que l'on fait, mais satisfait. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas non plus, on ne doit pas introduire le mensonge, c'est-à-dire mettre des matériaux d'imitation, comme une feuille de cuivre à la place d'une feuille d'or, mettre des couleurs synthétiques, etc. Donc, c'est toute la codification vient de là, d'une sagesse. Pourquoi vouloir modifier ce qui a été défini ?
C'est être en vérité.
Être, oui. Avoir, et je vous dirai une chose, c'est que si on veut faire des raccourcis, par exemple, au lieu de poser l'or sur le bol d'Arménie comme font les doreurs, mettre du blanc d'œuf ou je ne sais pas quoi, à la fin, ça se voit. Quand on passe le vernis de finition qui traverse toutes les épaisseurs de pierres qui sont broyées et arrive jusqu'à l'enduit, la transparence ne se fait pas si c'est de l'artificiel. Donc on est puni à la fin. Donc il ne faut pas mentir, il faut faire la vérité. L'iconographe donne tout de lui, son cœur, son âme, sa passion, sa recherche du beau, sa quête du beau, mais ne met rien de lui. Et l'icône intercède. Le croyant vénère l'icône, n'adore pas, vénère l'icône, demande à l'icône, fait ses prières à l'icône qui intercède.
Et d'ailleurs, en préparant notre rencontre, j'ai vu qu'on parle de la sainteté de l'icône. En quoi l'icône est-elle sainte hein?
Ah ben l'icône, c'est la présence. Et l'icône fait partie intégrante de la liturgie. L'icône, lorsqu'elle est terminée, une fois que le dessin a été terminé, tout fini, peinte, l'identification a été portée, elle va être bénie par le prêtre. Et c'est là qu'elle prend toute sa force, sa forme d'icône. Mm-hmm. Elle fait partie de la liturgie. Et les icônes s'offrent en général chez les orthodoxes à la naissance. Et l'icône suit la personne, le jeune garçon qui va à l'armée, dans la poche. Et quand il décède, elle devient familiale.
C'est, pour vous, c'est un acte de foi, c'est une prière.
Tout à fait. Le moteur, c'est la foi. Et avant de se mettre à l'icône, on doit lire une prière. Demander d'avoir les mains guidées. Voilà. Et moi, je la lis toujours.
Vous me dites, depuis le début de notre rencontre, de notre entretien, lire et écrire une icône. Est-ce que vous pouvez nous précéder tout ça?
C'est l'expression russe. Oui. Écrire une icône. L'icône, c'est l'écriture en couleur des saintes écritures, qui sont écrites en pleines lettres. Voilà. L'icône, une icône doit être, chaque ligne doit être très pure, purement faite. Il faut qu'on suive, qu'on lise chaque moindre trait du début jusqu'à la fin. Ça ne finit pas par un flou artistique à la Turner, vous voyez, qui peint très bien. Toute ligne doit être précise, on doit pouvoir la lire du début à la fin. Comme on lit un texte de la première, du premier mot jusqu'au dernier dans une page. C'est l'expression russe. Et, bon, et ma plus grande satisfaction, c'est quand, à l'occasion d'une exposition, la plupart des gens viennent me trouver, les larmes aux yeux, et je dis, tiens, le message est passé. Mon icône est aboutie. Voilà. Et lorsque moi je ressens qu'elle est terminée, elle est terminée. Je la ressens. Et je n'y retoucherai plus.
Oui, oui. Ce sont des images qui renvoient chacun d'entre nous à peut-être notre propre intériorité.
Oui. De toute façon, l'icône, vous regardez une icône, elle vous regarde. Vous la regardez, mais elle vous regarde. Contient toute la ferveur et la dimension de l'espace d'intériorité de l'iconographe. les icônes d'aujourd'hui, c'est ma version, hein, y en a ici, sont des icônes. Ce sont des icônes qui ne sont pas chargées. Ce sont des icônes qui sont faites la plupart du temps par des très bons élèves des beaux-arts russes, très bien dessinées, très bien peintes, mais il manque la troisième dimension ou la première dimension, la foi. Je pourrais vous en montrer. Il manque une culture qu'ils n'ont pas reçue. Les maîtres d'icônes, les vrais maîtres d'icônes, vivaient leur religion. Ludo. Ça, c'est du papier. Ça, j'aime bien. Ça, regardez, voyez, vous voyez, c'est un séraphin de Sarov. C'est un saint qui est très très populaire en Russie. Tous les Russes en ont un. Il est magnifique, je trouve. Il est placé là. Il est beau.
Ah, puis celui-là, c'est pas. Il a une expression voilà. dans le regard, c'est profond. Dans le visage.
C'est profond. Tout à fait. Ça, c'est une application des connances iconographiques. Mais il n'y a aucune fantaisie de la part du iconographe. Ouais. C'est comme ça que ça doit se faire. Alors là, vous ressentez la foi, la ferveur et l'espace d'intériorité justement de chacun. C'est ça qu'il faut respecter.
Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon artiste, là je vais vraiment dire artiste, de savoir dessiner.
Il faut savoir dessiner, mais ce n'est pas primordial. Il faut savoir dessiner. Et après, c'est de l'iconographie, de l'écriture iconographique, et qu'on doit respecter. Parce que je vous dis, si vous ne le respectez pas, à la fin, ça se voit. À la fin. Alors là, j'ai porté, pas comme par hasard, j'ai porté le saint de mon père, Saint Nicolas, le saint de ma mère, Sainte Xenia, et puis la sainte de ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, Sainte Barbara. L'icône ne cherche pas à représenter l'humanité réelle, mais elle est très hiératique. Et à partir de là, eh bien, il faut. C'est comme ça. Puis j'ai fait cette crucifixion.
Descente de croix, oui.
Descente de croix, que je dis, oui. Descente de croix. Oui. Eh bien, cette icône-là, je l'ai commencée car mon mari était malade, je ne pouvais pas la terminer. Et puis il est décédé, je l'ai terminée.
Et c'est ainsi que l'iconographe parvient parfois à toucher le ciel du bout de son pinceau. Quelques icônes de Katia Tchernaeva sont visibles en ce moment dans l'église russe de Biarritz. Vous pourrez également en découvrir d'autres dans un lieu de spiritualité à l'occasion de l'une ou l'autre de ces expositions.